Bienvenue à la conférence téléphonique de présentation du chiffre d'affaires du premier trimestre 2016 de Lizy. Je laisse à présent la parole à Emmanuel Viellard. Monsieur, c'est à vous.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Pour ceux qui sont connectés, je vais également dérouler les slides. Et on va commencer directement par le résumé donc du chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre qui s'élève à 388 millions d'euros, qui est un chiffre d'affaires record. Vous voyez que dans l'historique sur trois exercices, eh bien, c'est le chiffre d'affaires le plus élevé que j'ai eu le plaisir de vous annoncer. Nous avons une variation trimestrielle dans le publié qui est à plus 1,7% et qui correspond à une croissance organique et principalement retraitée des effets de change à plus 1,8% et qui vient après un quatrième trimestre 2015 à plus 1,2%. Donc vous voyez que la tendance qu'on vous avait annoncée pour lors de la publication des résultats d'exercice est confirmée. Donc une croissance globale qui est de bonne tenue, mais qui est à un niveau limité. Alors quand on regarde par division pour comprendre d'où vient cette croissance, on voit que dans la partie aéronautique, la croissance organique est soutenue par un marché européen très dynamique dans le sillage d'Airbus. Bonne montée en cadence des nouveaux programmes. Également, on peut noter que la 350, hein, qui était un nouveau programme, a généré une activité conséquente pour la BG Fixation Europe et également pour l'activité composant de structure. Aux États-Unis, nous avons un client principal qui s'appelle Boeing, qui a réorganisé sa chaîne logistique, notamment, vous savez qu'avec Boeing, on a un contrat qui est encadré en termes de mise à disposition de pièces par des tailles maximales, et Boeing, du fait d'un bon niveau de service, en particulier de notre activité nord-américaine, a baissé les tailles de bac pour réduire les effets stock. Et donc on a un effet conjoncturel, ça perturbe effectivement la visibilité à court terme, mais dans la durée on n'est pas forcément inquiet, on y reviendra tout à l'heure dans les perspectives. Et on est toujours sur des perspectives de marché qui sont solides, avec des montées en cadence prévues, qui comme annoncé n'ont pas d'impact sur le court terme, mais vont soutenir la visibilité dans la durée à moyen terme. Néanmoins, le chiffre d'affaires de 249 millions est là aussi un chiffre d'affaires historiquement élevé, et une variation en publié qui est de plus 3,4%. Alors, quand on regarde maintenant dans le monde automobile, on est dans un contexte où on note un recul conjoncturel des ventes réalisées avec les équipementiers mondiaux. Donc là, vous savez, notre activité sur les composants mécaniques de sécurité, on est en train de développer des nouveaux modèles, des nouveaux projets, des nouvelles pièces qui n'ont pas encore été commandées en grande quantité et donc dans une phase de transition. La tenue générale du marché européen est un indicateur, mais pour nous, on est surtout axé sur la production. Et la production européenne présente une hausse plus limitée que les immatriculations. Et c'est un facteur qu'il faut prendre en compte pour comparer l'activité qu'on a pu avoir. Et on a donc une légère régression du chiffre d'affaires à moins 1,5%, avec un tassement de l'activité au premier trimestre sur une base de comparaison. L'an dernier, on avait eu quand même un peu d'exceptionnel. Et toujours dans cette perspective de transition. Et pour compléter la présentation, effectivement, on note une légère baisse chez des clients comme Volkswagen, par exemple, pour les raisons que vous connaissez bien, et également auprès d'autres constructeurs allemands pour d'autres raisons, pour la fin d'anciens modèles, et là aussi un montée en puissance de nouveaux modèles qui n'est pas arrivé sur la période. Donc, une petite phase d'ajustement conjoncturel qui ne saurait en rien augurer de l'ensemble de l'année, en termes de tendance. Donc on espère revenir dans des zones positives dans les trimestres à venir. Enfin, dans la partie médicale, là on a une certaine stabilité du chiffre d'affaires, on a une base de comparaison qui était assez élevée, hein. La montée en puissance de certains projets, notamment sur les projets du générique, dont vous savez, notamment les prothèses totales de hanche destination du marché américain, qui aurait dû déjà commencer à générer du chiffre d'affaires sur le trimestre pour un certain nombre de sujets de réglage, n'ont pas généré de chiffre d'affaires sur la période, et là aussi ce n'est qu'un effet de décalage. Et enfin, on va revenir juste après sur l'acquisition de la société RTI Remly aux États-Unis, basée à Minneapolis. Donc ce qu'il faut retenir du médical, c'est que ça tient à un niveau tout à fait correct pour l'activité historique. Alors, quand on regarde cette belle acquisition qui est en cours, qui est le projet donc Remly, que nous avons annoncé il y a maintenant une dizaine de jours, c'est une société qui est arrivée dans le giron de Alcoa au moment où Alcoa a racheté RTI International Metals en 2015, en juillet 2015. Et dans sa revue de portefeuille, Alcoa a identifié cette activité comme étant non-core et a souhaité la céder avec un processus extrêmement serré, mais qui nous correspond bien. Et comme on connaît bien cette activité-là, on a pu se placer judicieusement pour pouvoir signer un protocole avec Alcoa, et on lève aujourd'hui les conditions. Et on espère pouvoir clore ce sujet-là rapidement. La société a été créée à Minneapolis après-guerre et ensuite est passée dans les mains d'un fonds long terme de private equity en 2007 et a été rachetée ensuite par RTI en 2012. Le groupe RTI comporte des activités de production principalement de matières premières et de titane en particulier. Et avec Remly, ils ont acheté une partie qui est exposée à défense et l'aéronautique qui ne fait pas partie du périmètre. Nous avons acheté que deux usines, donc par une opération de détourage ou un carve-out, l'usine de Big Lake et de Coude Rapids, qui sont toutes les deux situées dans la région de Minneapolis, à peu près un quart d'heure, 20 minutes de voiture l'une de l'autre. Donc on peut dire deux usines très proches. Voilà pour le contexte de l'acquisition. En termes de produits, nous avons une société qui est très focalisée sur deux familles de produits. Il y a la famille plus traditionnelle que vous connaissez bien, qui sont les implants du rachis et du trauma. Exactement le portefeuille de produits qu'on peut fabriquer en Europe dans l'usine de Lyon. Également dans une moindre mesure ce qu'on cherchait à développer chez Géropa. Donc là, une communauté de produits et de clients tout à fait proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, ils ont développé une vraie spécialité qui est noté en haut à gauche de la slide, donc qui sont ce qu'on appelle instrumentation MIS. Alors MIS, ça veut dire Mini Invasive Surgery, qui consiste à produire des instruments, donc c'est des instruments qui sont en contact avec la chair, hein, qui sont généralement en titane, extrêmement précis, en grande quantité, et qui est employé à la fois pour la chirurgie classique, mais surtout pour la chirurgie robotisée ou assistée par ordinateur, où en fait le chirurgien n'opère plus directement, mais fait opérer une machine qu'il va guider, soit par des programmes préinstallés, soit en guidant la machine avec des capteurs, et vous avez les instruments avec des orifices extrêmement petits, extrêmement réduits, qui peuvent venir opérer. Alors la société fabrique des pinces, des lames, des systèmes d'agrafe qui permettent de cautériser au fur et à mesure de l'avancée de l'opération de sorte qu'ils ne soient pas gênés par des petites hémorragies locales. Également des sondes, des ciseaux, des tubes qui servent à mettre des micro-caméras. Un éventail de produits assez large, mais c'est une vraie spécialité. Vous voyez qu'il fait à peu près 55% du chiffre d'affaires en 2015. Et qui connaît un développement fort, avec ce segment de chirurgie mini-invasive qui connaît un développement très très dynamique, et tous les grands majors du secteur ont investi sur ces technos, ce qui veut dire que c'est bien les technos d'avenir. Ensuite, la société fabrique également et intervient simplement à hauteur de 10% de son activité sur des composants métalliques pour les pompes et autres dispositifs, par exemple de perfusion. Donc là, on ne fait que la partie métallique, généralement en titane, et puis ensuite est assemblé par des sociétés qui, eux, maîtrisent l'ensemble du processus. Et également, le domaine de la spécialité dans les instruments d'urologie, donc là aussi, la partie montage, certichage sur un manche, etc., ça c'est fait à l'extérieur. La société étant spécialisée sur l'activité titane, et puis vous retrouvez ensuite une petite activité dans le domaine dentaire qui est tout à fait marginale. Alors en termes d'outils industriels, c'est une société qui est une vraie société industrielle, qui a beaucoup investi, qui a des usines tout à fait comparables et même en avance par rapport à ce qu'on peut avoir nous, qui est très capitalisée. Donc par rapport aux sociétés américaines qu'on a pu voir ou rencontrer, là on a affaire à des vrais industriels et ça a été pour nous un facteur tout à fait déterminant dans notre choix et notre volonté d'aboutir. Donc deux usines. Proches l'une de l'autre, encore une fois, qui regroupe un peu plus de 300 personnes, 350 aujourd'hui, et qui sont de très très bonne tenue technologique. On a une usine qui est très automatisée, très robotisée, avec un parc machine récent, des process PSM, c'est des Problem Solving Management, c'est des réunions d'opérateurs pour résoudre les irritants à court terme. Des usines qui sont bien rangées, des processus de validation au niveau qualité tout à fait au standard, qu'on a pu valider, ça n'y a pas de problème, et puis des séries importantes qui mettent en œuvre soit du Swiss machining, soit des typologies de machines qu'on appelle des hydromates, qui sont des machines qu'on connaît bien, puisqu'on en a à la fois dans l'aéronautique et également dans l'automobile. Voilà, donc une société qui nous correspond bien et qui est bien dans nos ADN, on va dire. Alors j'ai résumé ensuite le rationnel de cette acquisition, hein, qui nous permet surtout d'atteindre la taille critique, qui nous permet de nous repositionner en numéro 4 mondial, qui nous permet de développer un pôle US qui équilibre complètement la division, qui nous permet également d'intégrer un service commercial qui est tout à fait performant et qui est très bien répartis sur le territoire américain, donc on va en bénéficier pour le reste de nos lignes de produits et nos activités. On a des synergies, hein, bien entendu, avec nos sites, en particulier avec celui qui est localisé en Californie, qui s'appelle l'IC Medical Jeropa, qu'on va pouvoir exploiter avec beaucoup plus d'efficacité. Notre division a aujourd'hui atteint une maturité capable de pouvoir intégrer cette division, qu'on y a trouvé une équipe de managers tout à fait à niveau et tout à fait motivés pour rejoindre l'ISI, avec un maintien du management actuel qui est de très bon niveau et très dynamique. Et nous avons un responsable du plan d'intégration US qu'on va déporter sur place pour faire toute la phase d'intégration qui va durer entre 18 et 24 mois. Et ensuite, on va dérouler nos plans de synergie progressivement. Ils sont déjà prêts. Notre plan d'intégration est tout à fait mûr et donc on va maintenant le dérouler. Pour synthétiser, nous maintenons nos objectifs annuels. Alors quand on regarde par division, l'aéronautique va progressivement bénéficier des montées en cadence et des montées en puissance au cours de l'année, mais plutôt sur la fin de l'exercice 2016 comme annoncé. La poursuite de la modernisation des moyens de production vont permettre de pouvoir lancer les nouveaux produits dans des conditions qu'on espère maîtriser. Et on va concentrer nos efforts sur le pôle composant de structure, là où on a les enjeux et les challenges les plus élevés à relever, pour les mois qui viennent en termes de nouveaux produits. Dans la partie automobile, on va avoir un rattrapage des ventes plutôt sur la deuxième partie de l'année. J'espère pouvoir vous montrer dès le T2 un effet de tendance. Et on attend des démarrages de nouveaux projets pour l'activité composants mécaniques de sécurité. Nous avons un bon fonctionnement en termes d'ajustement, de développement, de succès commerciaux et également de rentabilité pour les deux business groups fixation clipée et composants de sécurité. Nous souhaitons poursuivre les progrès pour améliorer durablement la rentabilité de la division. Ça fait partie de notre feuille de route. Pour l'activité médicale, il est évident que l'acquisition de Remley va renforcer notre visibilité sur le marché, notre position avec les grands clients. Les perspectives commerciales sont solides et on va poursuivre les actions d'amélioration continue et d'investissement dans des technologies différenciantes. On espère également pouvoir développer notamment les premières pièces 3D dans cette activité-là. Donc, en global, nous maintenons nos objectifs d'augmentation de l'ensemble des indicateurs de gestion, de progression de l'ensemble des indicateurs de gestion que nous avons publié lors des résultats annuels. Maintenant, je vais vous laisser la place pour les questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez taper 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une question de Christophe Menard de Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour. J'avais quelques questions d'abord sur Remley, ou je ne sais plus, j'ai pas la prononciation exacte, mais votre acquisition. Le plan de CAPEX, qu'est-ce que ça induit sur l'année et 2016 et 2017 en termes de CAPEX supplémentaires par rapport à ce sur quoi vous nous aviez guidé au mois de février? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est sur cet aspect US, donc en aérospace. Qu'en est-il exactement? C'est un effet de phasage ou c'est un effet qui va être durable sur toute l'année? En fait, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas vraiment à voir, donc c'était pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et puis, pour l'instant, je dirais que c'était les deux premières questions que j'avais.
Très bien, merci Christophe pour ces deux questions. Alors, l'acquisition de Remley ne va pas forcément bouleverser le plan de CAPEX pour 2016, puisque il y a une phase d'attente, c'est une société qui est tout à fait capitalisée. On a en commande un tour important, assez complexe, donc une ligne de production qui va déboucher peut-être sur début 2017. Donc on a déjà planifié dans notre plan, c'est à peu près 3 à 4 millions de dollars d'investissement. La société Remley investit lorsqu'ils prennent les commandes, donc on a également un retour immédiat avec des niveaux de rentabilité qui sont tout à fait attractifs. Donc Remley ne va pas bouleverser à court terme notre plan de CAPEX si on devrait rester dans les purs, donc largement supérieur à 100 millions d'euros, un peu supérieur je pense à l'an dernier, qui vous a été annoncé pour l'ensemble de l'année 2016. Pour 2017, il conviendra de préciser les choses, mais ça viendra légèrement augmenter. Voilà, si vous voulez, je jette un chiffre aujourd'hui sur la table, 5 millions de dollars d'investissement pour Remley en complément de ce que vous avez déjà positionné pour le groupe à périmètre constant, ça pourrait être raisonnable. Votre question concernant le marché aéronautique US, effectivement, on est dans une phase d'ajustement donc des stocks concernant Boeing qui est très conjoncturel. Nos équipes nous disent qu'ils vont avoir forcément un réajustement dans l'autre sens à un moment ou à un autre. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore vu le réveil de Boeing, mais je suis plutôt confiant pour le voir arriver quelque part dans l'exercice. Les autres pans du marché US ont l'air de frémir en termes de prise de commande. Donc, je ne suis pas inquiet dans la durée sur la capacité du marché US à rebondir.
Et merci beaucoup. J'avais deux petites questions supplémentaires par rapport, alors l'une à Remly. Au niveau, la profitabilité de Remly, de ce que vous dites, j'ai l'impression qu'elle est plus élevée que votre branche médicale actuelle. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que c'est une hypothèse qui reste, qu'on peut intégrer dans le modèle? Et l'autre aspect, une question purement liée aux nouvelles, je dirais, j'ai cru voir qu'il y avait une grève dans une de vos usines. Et dans quelle mesure ça peut impacter la production aéronautique française sur le Q2 et quels sont les éléments qui ont été mis en place pour peut-être l'avoir déjà traité, je ne sais pas, je n'ai pas suivi en détail, mais quelles sont les conséquences en fait sur le Q2?
Alors, sur la partie profitability concernant Remly, oui, c'est une société qui est plus rentable que notre activité historique médical, parce que c'est une société qui, aujourd'hui en termes de contributifs, clairement apporter du résultat déjà en 2016. En tout cas, si on maintient les niveaux de rentabilité que nous avons pu analyser. Et je ne vois pas pourquoi on inverserait cette tendance qui a déjà été constatée, sur laquelle on a travaillé très sérieusement dans la partie due diligence. Ensuite, pour préciser un peu les choses, parce que là je devance la question suivante. À quel niveau? Aujourd'hui, il faut qu'on mette la société aux normes LISI. C'est une société qui est très bien organisée, hein, mais aux normes comptables, puisqu'on est en US GAAP. Donc il faut qu'on établisse sur les normes IFRS telles qu'elles sont établies par LISI. Il faut qu'on y mette une structure, on va y adosser des management fees, etc. etc. Donc pour avoir la contribution nette de l'ensemble, il va falloir qu'on attende un tout petit peu. Je vous en dirai davantage au mois de juillet. Donc voilà, je vous réponds positivement, en tout cas sur le fond de la question, la profitabilité est effectivement plus élevée. Concernant la situation de certains sites, effectivement, vous avez bien lu, on a eu des NAO qui sont bien déroulés dans la plupart des sites et quelques sujets de crispation, localisé sur deux sites, Argenton d'une part et puis Marmande d'autre part, instrumentalisé par des syndicats qui étaient en même temps en assemblée générale annuelle, avec un contexte social, là à court terme, que vous pouvez entendre parler à l'heure où on se parle, qui n'est pas forcément facile. Donc effectivement, on a des positions qui sont crispées, on a eu jusqu'aux boutistes qui ont voulu aller au conflit. Aujourd'hui, tout est résolu. Les sites ont redémarré. Et effectivement, on a perdu sur ces deux sites pas loin d'une semaine de production. Alors on avait un peu de stock. On n'a pas mis les clients en panne. Les usines ont continué à travailler, mais il y avait quand même des grévistes et des grévistes qui faisaient pression sur ceux qui travaillent, etc. etc. Bon, on avait des taux de participation qui étaient faibles, mais ils ont quand même réussi à perturber. En faisant des blocages, en faisant des pressions, vous savez, comme ils font habituellement, ils ont réussi à perturber la production, et effectivement, on a eu une production qui a été perturbée sans remettre en danger les montées en cadence et montées en puissance des différents programmes. Par ailleurs, les heures de grève seront récupérées, donc ça veut dire qu'on va travailler les week-ends, et on a un plan de récupération qui va s'étaler jusqu'au mois de juillet. Mais effectivement, on n'avait pas besoin de ces mouvements-là pour redresser, montrer des signes forts de redressement de cette activité. Le point positif, c'est que ces deux sites ont essayé d'entraîner plusieurs autres sites du groupe et ça n'a pas bougé. Et que les négociations dans les sites de manoir qui sont traditionnellement historiquement compliquées, ça n'a pas été le cas. Alors, le groupe LISI n'a pas l'habitude des conflits de ce type-là. On est plutôt adepte d'une négociation constructive et effectivement on ne peut que regretter ces mouvements qui en plus n'apportent strictement rien si ce n'est que d'apporter un peu de confusion chez nos clients. Donc on n'a pas eu de grève à Marmande depuis 6 ans, on n'avait pas eu de grève chez Indra Aero depuis plus longtemps. Bon, il a fallu que ça tombe cette année. Voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires.
D'accord. merci beaucoup. Donc en fait, ça va s'est normalisé, donc il n'y aurait pas un impact énorme sur le Q2 en termes clairs, si j'ai bien compris.
Mais il y a quand même une semaine, on s'en serait bien passé.
Oui, d'accord. Ouais, donc ça sera rattrapé au fil du temps. D'accord.
Voilà, exactement.
Merci.
Nous avons une question de Jean-François Grandjean de Odo. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Première question, j'ai bien noté votre commentaire concernant les niveaux de profitabilité pour Remly. Est-ce qu'on peut avoir de manière un peu précise quelques métriques en termes de ratio de transactions en ce qui concerne l'acquisition? Deuxième question, est-ce qu'on peut revenir quand même sur la partie automobile, parce que bon, enfin vous l'avez expliqué aussi, mais je suis assez surpris par la performance compte tenu de publications qui étaient quand même plutôt fort sympathiques de la part des équipementiers que l'on connaît par ailleurs et qui sont aussi impliqués sur le marché européen. Troisième question, est-ce qu'on peut quantifier un petit peu l'impact Boeing des perturbations, autrement dit, si on prend une situation normée, quel aurait été finalement plutôt le train de croissance si Boeing avait été au rendez-vous? Et puis, dernière question, je fais référence à votre toute dernière phrase de la press release. Comment interpréter légère progression, top line, profitabilité, marge, est-ce que vous pouvez préciser? Merci.
Bien, alors... En termes de ratio de transactions, on a publié dans le communiqué le montant de la transaction qui s'élève donc autour de 102 millions de dollars. On va faire un chèque de 101,7 millions de dollars. Donc ça nous met sur des ratios qui sont pas totalement stupides pour le monde médical. C'est une activité qui était importante pour nous. Je ne dis pas qu'on a payé un prix stratégique, je pense qu'on a payé le meilleur prix possible. Dans une négo, on avait une certaine concurrence. Je m'arrête là. Bon, la société, elle fait cette année, on va sur un trend entre 71 et 74 millions pour donner une fourchette de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, vous avez le ratio de chiffre d'affaires. Après, les multiples exacts ou normalisés, on vous les donnera un peu plus tard. Concernant les publications des équipementiers auto, je pense qu'on a chacun ses particularités. Là, on a un cycle d'activité qui a fait qu'on a connu un léger ralentissement, donc il a fallu s'adapter. En termes de qualité de fonctionnement, de formation de la marge, on n'a rien à dire de particulier. Ça veut dire que ça a fonctionné à peu près correctement. On a un certain nombre de sujets de satisfaction. Donc on a une qualité de l'activité qui est tout à fait au rendez-vous. Maintenant, je ne connais pas l'exposition exacte des équipementiers auxquels vous pouvez faire référence, notamment en termes d'exposition à Volkswagen. Voilà, et puis on a eu des effets de décalage, là, encore dans le temps, de monter en puissance des nouveaux programmes qu'on aurait pu attendre. Donc, je pense pas qu'on peut parler d'une sous-performance. Nous, on arrive tout à fait à la rationaliser. On n'a pas perdu de marché significatif, ou on n'a pas perdu des positions importantes avec telle ou telle. Et encore une fois, on a réussi à correctement ajuster les choses. Moi, je préfère faire moins 1,5 et bien piloter les opérations, plutôt que de faire des performances qui étaient bonnes l'an dernier au T1 2015. Mais qui était pas bonne du tout en termes de pilotage de l'activité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout on recherche le qualitatif dans le domaine auto et pas forcément le volume. L'impact Boeing, cette fois-ci, hein, on repart dans la partie aéronautique fixation US. Il nous manque à peu près 3-4 millions de dollars de chiffre d'affaires. Qui est uniquement imputable à l'ajustement logistique de Boeing, qu'on espère voir revenir rapidement, puisqu'une fois qu'on a baissé les tailles de commandes, les tailles de bac, on le fait qu'une fois. Donc c'est un effet vraiment ponctuel, vous appelez un one-off. Alors, ma phrase de perspective prend très exactement les perspectives qu'on vous a données au mois de février lors de l'annonce de nos résultats. Donc si vous n'avez pas posé la question en février, je ne vois pas pourquoi vous la posez maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on souhaite améliorer l'ensemble de nos indicateurs de gestion, y compris le volume d'activité, mais également les rentabilités, en valeur absolue. Et se cramponner au maximum, tout près d'une marge à deux chiffres, en termes d'EBIT. Bon, ça ne peut pas être plus clair. Hein.
Merci.
Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, vous devez taper le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une nouvelle question de Christophe Ménard de Kepler Equities. Monsieur, c'est à vous.
Oui, je me permettais de rebondir sur la guidance, puisque la guidance, elle a été donnée en février avant l'acquisition de Remly. J'ai bien conscience que ce n'est pas nécessairement énorme en termes de contribution par rapport au groupe, mais ça sera quand même, si on fait une intégration au Q2, on aura quand même la moitié d'une année. Donc dans quelle mesure la guidance a été modifiée et si elle n'a pas bougé, qu'est-ce qui aurait pu baisser? J'essaie de voir un peu, j'essaie de vous faire parler en fait.
Oui, je vois ça, oui. C'est une belle tentative. Hein. Alors, Remly n'a pas été intégré dans notre guidance. Donc, on est exactement dans la continuité de la guidance précédente.
D'accord, ok. D'accord, donc on met l'incrémental de Remly sur ce que vous venez de nous dire.
Voilà.
Très bien. Ok, c'est clair. Merci beaucoup.
Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, vous pouvez taper le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous n'avons pas d'autres questions. Monsieur, c'est à vous pour la conclusion.
Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Les questions toujours pertinentes. J'espère avoir été clair dans les explications. On se donne rendez-vous maintenant pour le 28 juillet au soir, à l'annonce donc de nos résultats semestriels 2016. Et donc on devrait se retrouver le 29 juillet 2016 à 10h du matin pour notre traditionnelle réunion des résultats semestriels. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.